Maturité professionnelle 2024, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'examen de la compréhension auditive. Dialogue 1. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. Après la première écoute, vous aurez 1 minute 30 pour commencer de répondre aux questions. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions de l'exercice A1. Première écoute.
Bonjour Kevin. Première question. Est-ce qu'il existe une école pour devenir créateur de jeux vidéo?
Oui, Zurich propose une formation spécialisée et on trouve son pendant à l'Institut SAE de Genève. Mais on peut aussi se former en autodidacte. Beaucoup de développeurs trouvent des ressources sur Internet. Il est aussi conseillé de participer à des week-ends de Game Jam qui permettent d'expérimenter la création de jeux. Les écoles apportent beaucoup de connaissances techniques. Mais pour devenir pro, c'est en pratiquant que l'on apprend le mieux.
Est-ce qu'il faut être surdoué en informatique?
Non, le jeu ne demande pas beaucoup de compétences informatiques. C'est plus important de savoir se montrer inventif. J'ai commencé à 12 ans avec des moteurs assez primitifs. Il faut aimer jouer et créer des monstres.
Par quoi faut-il commencer pour créer un nouveau jeu?
Tout d'abord, il faut se demander quel est le grand thème. Ensuite, on démarre avec une version la plus simple possible. Contrairement à ce que l'on imagine, quelques créateurs commencent avec du papier et un crayon. Il ne faut pas se focaliser tout de suite sur les dialogues ou les beaux graphismes.
Est-ce un travail solitaire?
Non, c'est toujours un travail d'équipe. Il faut aimer collaborer et savoir communiquer avec tous les acteurs du processus de création. Bref, cultiver l'esprit d'équipe. Aucun jeu n'a été fait par une seule personne. Avant sa commercialisation, il y a toujours derrière des gens qui s'occupent de l'édition et du marketing.
Est-ce un métier rentable?
Il ne faut pas se lancer en pensant qu'on sera millionnaire. Malgré les soutiens du canton et de Pro Helvetia, on n'arrive pas à en vivre. Pour un jeu réussi, ce sont 1000 jeux qui passent sous le radar. Pour gagner sa vie, mieux vaut aller dans la programmation.
Quels sont les ingrédients d'un bon jeu vidéo?
Personne n'a la recette. Il est important de le faire tester auprès des gens. Les feedbacks permettent de s'améliorer. On développe très vite des œillères et on ne se rend plus compte des faiblesses de ce qu'on l'a créé.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer?
Attention à ne pas s'embarquer dans un projet trop ambitieux. Il faut commencer petit. On rencontre beaucoup d'obstacles dès le départ. Mieux vaut ne pas trop investir au début, mais le faire au fur et à mesure. Comme cela représente des années de travail, il faut s'assurer que cela en vaille la peine.
Merci, Kevin, pour cette interview.
Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Deuxième écoute.
Bonjour Kevin, première question. Est-ce qu'il existe une école pour devenir créateur de jeux vidéo?
Oui, Zurich propose une formation spécialisée et on trouve son pendant à l'Institut SAE de Genève. Mais on peut aussi se former en autodidacte. Beaucoup de développeurs trouvent des ressources sur Internet. Il est aussi conseillé de participer à des week-ends de Game Jam qui permettent d'expérimenter la création de jeux. Les écoles apportent beaucoup de connaissances techniques, mais pour devenir pro, c'est en pratiquant que l'on apprend le mieux.
Est-ce qu'il faut être surdoué en informatique?
Non, le jeu ne demande pas beaucoup de compétences informatiques. C'est plus important de savoir se montrer inventif. J'ai commencé à 12 ans avec des moteurs assez primitifs. Il faut aimer jouer et créer des monstres.
Par quoi faut-il commencer pour créer un nouveau jeu?
Tout d'abord, il faut se demander quel est le grand thème. Ensuite, on démarre avec une version la plus simple possible. Contrairement à ce que l'on imagine, quelques créateurs commencent avec du papier et un crayon. Il ne faut pas se focaliser tout de suite sur les dialogues ou les beaux graphismes.
Est-ce un travail solitaire?
Non, c'est toujours un travail d'équipe. Il faut aimer collaborer et savoir communiquer avec tous les acteurs du processus de création. Bref, cultiver l'esprit d'équipe. Aucun jeu n'a été fait par une seule personne. Avant sa commercialisation, il y a toujours derrière des gens qui s'occupent de l'édition et du marketing.
Est-ce un métier rentable?
Il ne faut pas se lancer en pensant qu'on sera millionnaire. Malgré les soutiens du canton et de Pro Helvetia, on n'arrive pas à en vivre. Pour un jeu réussi, ce sont 1000 jeux qui passent sous le radar. Pour gagner sa vie, mieux vaut aller dans la programmation.
Quels sont les ingrédients d'un bon jeu vidéo?
Personne n'a la recette. Il est important de le faire tester auprès des gens. Les feedbacks permettent de s'améliorer. On développe très vite des œillères et on ne se rend plus compte des faiblesses de ce qu'on l'on crée.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer?
Attention à ne pas s'embarquer dans un projet trop ambitieux. Il faut commencer petit. On rencontre beaucoup d'obstacles dès le départ. Mieux vaut ne pas trop investir au début, mais le faire au fur et à mesure. Comme cela représente des années de travail, il faut s'assurer que cela en vaille la peine.
Merci Kevin pour cette interview.
Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Dialogue 2. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. Après la première écoute, vous aurez 1 minute 30 pour commencer de répondre aux questions. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions de l'exercice A2. Première écoute. Bonjour Andrea Egerton. Vous venez nous parler de multitâche. Qu'est-ce que cela signifie?
Ce terme désigne le fait d'accomplir en même temps plusieurs tâches avec des objectifs différents.
Avez-vous un exemple ?
La conduite en voiture ne relève pas du multitâche. On doit accomplir plusieurs actions, comme appuyer sur les pédales et tourner le volant, mais toutes ont le même objectif, conduire. Ce n'est que lorsqu'on y ajoute une autre tâche, comme parler avec une passagère, qu'on parle de multitâche.
Le multitâche est-il réellement possible ?
D'un côté, l'idée que le multitâche est possible est très répandue. De l'autre, la littérature spécialisée juge qu'il s'agit d'une illusion. À mon avis, dire que l'être humain n'est pas fait pour le multitâche n'est pas tout à fait vrai.
Il peut donc s'apprendre ?
C'est possible, mais à certaines conditions. Effectuer deux tâches semblables à la fois, comme regarder une vidéo et participer à une réunion en ligne, c'est impossible. Mais plus les tâches diffèrent, plus le multitâche fonctionne.
Quel rôle joue l'expérience ?
Elle est importante. En voiture, un débutant ne pourra pas parler avec une passagère. En revanche, un conducteur expérimenté pourra sans problème parler et conduire en même temps.
Dans le monde du travail, on nous demande souvent d'être multitâche. Est-ce efficace ?
Cela dépend du contexte. Quand un sportif fait du jogging, peu importe qu'il écoute sa musique attentivement ou pas. Dans le contexte professionnel, c'est différent. Les personnes qui veulent tout faire en même temps seront plus lentes, surtout dans des tâches complexes.
Alors pourquoi le multitâche est-il aussi apprécié ?
Pour deux raisons. La pression des délais et l'illusion qu'il permet de travailler avec plus d'efficacité. Malheureusement, exécuter plusieurs tâches en même temps diminue la productivité tout en étant facteur de stress.
La numérisation a-t-elle modifié la façon de travailler en multitâche ?
Oui. L'univers du travail est de plus en plus exigeant. Nous utilisons une multitude de canaux numériques qui nous demandent de réagir instantanément. Nous sommes donc plus exposés aux multitâches.
Que proposez-vous pour éviter le multitâche ?
Pendant le travail, on peut désactiver les notifications pour ne pas être dérangé tout le temps, ou encore téléphoner à des heures précises.
Les jeunes sont-ils meilleurs en multitâche que leurs aînés ?
En ce qui concerne l'univers numérique, c'est probablement vrai. On peut affirmer que les jeunes, habitués plutôt aux réseaux sociaux, ont acquis une expérience précoce. Ils sont donc plus expérimentés que leurs aînés. Reste à savoir si cette expérience est utile dans le monde du travail. Je crois que leurs aînés n'en sont pas si sûrs.
Andrea Egerter, je vous remercie pour cette interview. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Deuxième écoute. Bonjour Andrea Egerton. Vous venez nous parler de multitâche. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ce terme désigne le fait d'accomplir en même temps plusieurs tâches avec des objectifs différents.
Avez-vous un exemple ?
La conduite en voiture ne relève pas du multitâche. On doit accomplir plusieurs actions, comme appuyer sur les pédales et tourner le volant, mais toutes ont le même objectif, conduire. Ce n'est que lorsqu'on y ajoute une autre tâche, comme parler avec une passagère, qu'on parle de multitâche.
Le multitâche est-il réellement possible ?
D'un côté, l'idée que le multitâche est possible est très répandue. De l'autre, la littérature spécialisée juge qu'il s'agit d'une illusion. À mon avis, dire que l'être humain n'est pas fait pour le multitâche n'est pas tout à fait vrai.
Il peut donc s'apprendre.
C'est possible, mais à certaines conditions. Effectuer deux tâches semblables à la fois, comme regarder une vidéo et participer à une réunion en ligne, c'est impossible. Mais plus les tâches diffèrent, plus le multitâche fonctionne.
Quel rôle joue l'expérience ?
Elle est importante. En voiture, un débutant ne pourra pas parler avec une passagère. En revanche, un conducteur expérimenté pourra sans problème parler et conduire en même temps.
Dans le monde du travail, on nous demande souvent d'être multitâche. Est-ce efficace ?
Cela dépend du contexte. Quand un sportif fait du jogging, peu importe qu'il écoute sa musique attentivement ou pas. Dans le contexte professionnel, c'est différent. Les personnes qui veulent tout faire en même temps seront plus lentes, surtout dans des tâches complexes.
Alors pourquoi le multitâche est-il aussi apprécié ?
Pour deux raisons. La pression des délais et l'illusion qu'il permet de travailler avec plus d'efficacité. Malheureusement, exécuter plusieurs tâches en même temps diminue la productivité tout en étant facteur de stress.
La numérisation a-t-elle modifié la façon de travailler en multitâche ?
Oui, l'univers du travail est de plus en plus exigeant. Nous utilisons une multitude de canaux numériques qui nous demandent de réagir instantanément. Nous sommes donc plus exposés aux multitâches.
Que proposez-vous pour éviter le multitâche ?
Pendant le travail, on peut désactiver les notifications pour ne pas être dérangé tout le temps, ou encore téléphoner à des heures précises.
Les jeunes sont-ils meilleurs en multitâche que leurs aînés ?
En ce qui concerne l'univers numérique, c'est probablement vrai. On peut affirmer que les jeunes, habitués plus tôt aux réseaux sociaux, ont acquis une expérience précoce. Ils sont donc plus expérimentés que leurs aînés. Reste à savoir si cette expérience est utile dans le monde du travail. Je crois que leurs aînés n'en sont pas si sûrs.
Andrea Egerton, je vous remercie pour cette interview. Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Fin de l'examen de compréhension auditive.